Philippe Nilor, bonjour.
Bonjour.
Nous y allons pour un entretien un peu plus long sur... Est-ce qu'on peut parler des démêlés du mime ?
Je ne sais pas si on peut parler du démêlé, des démêlés. Moi, je trouve que le mime, ce soir, a atteint un point de paroxysme de mêlé. Et on est loin d'être démêlé.
Mais vous savez que la Martinique vous regarde ou pas ? Parce que vous êtes encore au mime. Même si vous avez annoncé votre démission, si vous votez, c'est que vous êtes encore au mime. Je veux dire, est-ce que vous avez bien conscience que tous les Martiniquais, ce soir, de plus, alors qu'ils attendent un apaisement, un règlement de la situation, se rendent compte qu'on n'est pas sorti de l'auberge là.
J'ai toujours prôné l'apaisement. Je sais bien que la Martinique nous regarde. Et que ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement une affaire de rapport de pouvoir, de lutte de pouvoir. Pour moi, ce qui est le plus grave, c'est que cette image lamentable qui est donnée volontairement, et on en a eu la démonstration ce soir par certains, volontairement, c'est pour salir l'idée de responsabilité martiniquaise. Et je suis en mesure aujourd'hui de dire que les dirigeants actuels du MIME, ils préfèrent partir, mourir, en tuant le parti, en tuant le pays, et en tuant surtout l'idée que le peuple martiniquais peut avoir confiance dans ses élus, dans ses partis politiques. À défaut de pouvoir y être arrivé lui-même, à faire évoluer institutionnellement la Martinique vers davantage de responsabilité, vers davantage d'autonomie, j'ai le sentiment que parce qu'il n'y est pas arrivé, il ne veut pas que ceux qui viennent après y arrivent non plus. Et c'est ça qui est le plus lamentable, c'est ça qui est le plus grave. C'est pourquoi, moi, pendant des mois, je n'ai pas répondu aux agressions, aux attaques, aux mensonges, aux accusations les plus injustes, les plus fantaisistes. C'est tellement facile de salir, de cracher sur quelqu'un, de l'accuser et de demander...
Vous n'êtes pas en train de jouer à la victime, là, Jean-Philippe ? Ça vous réussit bien, ce petit rôle-là aussi.
Non, je ne joue pas à la victime. C'est, tout le monde a bien vu que je n'ai pas jeté de l'huile sur le feu. Et les rares fois où j'ai réagi, alors que moi je recevais de vrais coups de Kalachnikov, lorsque ma vie privée est en cause, ma vie familiale est en cause, lorsqu'on dit qu'on m'a ramassé dans la rue, que m'a tabala richen, ça veut dire que m'a pas ni papa, m'a pas ni maman, m'a pas ni éducation, m'a pas ni famille, yo prend moi qu'on clochant l'arrière, yo fait dire non, mais puis je dis, m'a pas venu tuer non blanc qui va moi manger. Mais c'est une relation de dépendance, mais c'est le type de dépendance les plus viles. Non, je ne peux pas accepter un certain nombre de choses. Et je ne peux pas non plus accepter un certain nombre de dysfonctionnements, de dérives antidémocratiques. Parce que moi, je m'inscris dans la durée. Je m'inscris dans la construction de quelque chose pour les générations à venir. Et ce n'est pas ce pays-là que j'ai envie de laisser à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc ce genre d'image-là déplorable qu'on a eu ce soir, il y en a qui ont à gagner de ça et il y en a qui ont à perdre. Moi, j'ai à perdre de cette image déplorable qui consiste et qui va dans le sens de notre incapacité structurelle, comme quoi nèg contre nèg, nèg pas capable de gérer pays. Vaut mieux que c'est Paris qui a continué à gérer, si c'est élu noir qui a fait la démonstration d'un tel niveau de bassesse.
Bien sûr, bien sûr.
Et, voilà. Et c'est un peu les mêmes logiques qu'on retrouve dans tous les pays sous-développés et notamment dans un certain nombre de pays d'Afrique, c'est-à-dire des gens qui se considèrent comme étant l'alpha et l'oméga. Ils sont au début, ils sont à la fin, ils sont des hommes providentiels, les pères de la nation, et cette logique-là, c'est de cette logique-là qu'il faut qu'on sorte.
Très bien, Jean-Philippe Nilor. Allons rentrer plus en détail dans le rapport de force. Combien de candidats, combien d'adhérents connaissez-vous, vous, ce soir, au MIME ?
Mais c'est pas moi...
Vous êtes au courant quand même.
Vous
venez pas juste pour voter sans savoir.
Je sais qu'il y a beaucoup de sympathisants du MIME.
Non, je vous parle de personnes inscrites.
Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à jour de leur cotisation.
On a parlé de 250.
Qui sont pourtant des militants. On a parlé d'à peu près 210.
Vous a parlé de 210. D'accord, très bien. Donc allons-y pour ce chiffre de 210.
Mais ce chiffre traduit déjà un malaise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir autant de militants et aussi peu d'adhérents à jour de leur cotisation.
On est d'accord sur ce point-là. Je veux dire, ce que je ne comprends pas, c'est qu'entre-temps, les uns et les autres ne se soient pas mis à jour. Comment vous expliquez ça ?
Non, pour atteindre ce chiffre de 210, il a fallu que beaucoup se mettent à jour.
Oui, mais je veux dire, oui, mais il y a au moins 1000 militants, il y a au moins 1000 militants. Je veux dire, vous pourriez, s'ils considèrent qu'ils ont notamment un rapport de force favorable, il pouvait y avoir ce soir 300, 400, 500 votants, quoi, facilement.
Ça traduit ce que je dénonce depuis un moment, c'est-à-dire la faiblesse de l'organisation du mouvement. C'est la démonstration claire que le MIM n'était pas géré et n'était pas administré convenablement. On ne peut pas avoir autant de militants et aussi peu d'adhérents. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que c'est la gouvernance qui est en place depuis un moment qui n'a pas fait son travail.
Oui. Est-ce que ça ne veut pas dire simplement que Marie-Jeanne payait tout?
Je ne sais pas. Je ne vais pas partir dans ce genre d'accusation.
Non, mais c'est quand même important. Enfin, je veux dire... on a entendu dire que le siège où se passaient les réunions, c'était sa propriété, que bon. On entend beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, vous étiez aussi député, donc avec également des moyens financiers, Jean-Philippe Nilor. Est-ce que, par exemple, sur LDM, vous avez payé des choses?
Oui, j'ai, au titre de la réserve parlementaire, aidé RLDM. Je l'ai aidé sans chercher à communiquer particulièrement là-dessus, sans chercher à m'en vanter. Mais je trouve quand même triste qu'aujourd'hui, je ne puisse pas avoir la parole sur cette radio-là. Mais vous savez, je sais que la vie est ainsi faite et qu'il y a des retournements de situation. Et que moi, je n'en tire aucun gros poil, c'est comme ça. Mais oui, au titre de la réserve parlementaire, j'ai aidé RLDM, c'est une vérité objective que je dis, ce que le député Marie-Jeanne n'a jamais fait.
Très bien. Alors, autre chose, vous avez, il paraît que l'ancien directeur de cabinet de M. Marie-Jeanne, nouvelle fonction, CTM, Louis-Félix Duville, serait passé dans votre camp.
Mais il n'y a pas de camp, il faudrait interroger Louis-Félix Duville.
Dans ce qu'on appelle le camp des factionnistes. Ce soir, dans les deux camps qu'il y avait là, Louis-Félix Duville n'était pas côté Marie-Jeanne, il était côté Nilor, Jean-Philippe Nilor. Ça vous fait sourire, mais allons-y.
C'est le mieux placé pour vous expliquer les raisons de son choix et du malaise qu'il a pu ressentir. Mais je veux dire que...
Je vous pose la question, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'argument de Daniel Marie-Sainte, que nous avons interrogé, et que vous pourrez écouter sur Ici Martinique. Il dit, il y a eu une première fraction du fait qu'un certain nombre de personnes qui devaient être sur la liste ne s'y sont pas retrouvées. Si je prends le cas de Louis-Félix Duville, il n'était pas sur la liste, c'est vrai, mais il a été mieux arrosé que tout le monde.
Si on peut parler en termes d'arrosage, mais je pense que cette accusation-là est gratuite. Et c'est très facile de sortir des accusations comme ça, encore une fois, de jeter l'opprobre sur les autres. Moi, ce que je sais, ce que j'ai vécu de l'intérieur, c'est que aussi bien Duville que Boulinois et d'autres n'ont pas souhaité être sur la liste. C'était leur choix. Ils souhaitaient passer la main, de permettre à une nouvelle génération d'émerger, de faire
ses preuves. Vous dites que c'est un faux argument.
Je dis que c'est un faux argument et c'est encore une fois le nègre qui s'allie sous le nègre pour discréditer le nègre, mais sans se rendre compte que finalement c'est tout le monde qui perd avec ce genre d'argument-là. Parce que quelque part dans l'argumentation de Daniel Marie-Sainte, ça montre que tout le monde est dans un compère-lapinisme et que c'est les intérêts personnels qui prennent le dessus sur tout. Non, j'ai pas le sentiment. J'ai pas ce sentiment-là. Vous savez, pendant que des décennies, mes relations avec Louis-Félix Duville n'étaient pas au beau fixe. Hein. Au sein du MIM, c'était un petit peu chien pichate. Et si aujourd'hui nous nous sommes rapprochés, c'est qu'il a bien constaté qu'il y avait une dérive et que finalement, les dérives étaient telles, le déni de démocratie était tel, le manque de respect était tel que mais finalement, il a dû se rendre compte finalement que peut-être sur certains sujets, mais j'avais déjà raison avant la lettre. Et comme moi, j'ai pu aussi remettre en question certaines positions que j'avais et qui n'étaient peut-être pas fondées aussi. Il y a une remise en cause de chaque côté. Mais aujourd'hui, si un fidèle, des fidèles, comme Louis-Félix Duville, n'épouse pas cet élan fanatique qui a autour d'Alfred Marie-Jeanne, je crois que c'est Alfred Marie-Jeanne de se poser ce type de questions-là.
Autre question et autre approche, Daniel Marie-Sainte dit encore, la deuxième pomme de discorde, c'est le fait qu'on a pu faire comprendre à Lilor à un moment donné que son heure était arrivée et qu'il fallait absolument qu'il prenne son relais générationnel et que c'était son heure et qu'il ne pouvait plus attendre. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là? Et est-ce que vous considérez, vous, Jean-Philippe Nilor, que vous avez été dans une phase à un moment donné où vous avez considéré qu'il vous fallait, vous remettre, disons, le flambeau que vous portez très symboliquement sur votre mur Facebook?
Non, je n'ai jamais considéré que j'avais un droit à tenir un flambeau, à ce qu'on me remette un flambeau, qu'il soit symbolique ou pas. Je n'ai jamais considéré ça.
Vous n'avez jamais considéré que votre heure était venue, Jean-Philippe Nilor?
Non, mais il n'y a pas une heure, il n'y a pas un moment où l'heure arrive. C'est-à-dire, il y a une action politique qui se mène dans le temps. Et il y a certaines étapes qui doivent être franchies. Mais il n'y a pas un grand jour où les responsabilités vous tombent dessus. Ça, c'est quelque chose qui vient progressivement. Ce que je peux dire, tout simplement, c'est que Daniel Marissette serait mal placé pour parler de ça, parce que c'est lui, précisément, qui a justifié, notamment, ma participation à ce qu'on a appelé le G20. Et c'est bien lui qui, à un moment donné, a eu le courage, et je le salue pour ça, aujourd'hui, de dire que c'était avec l'accord du MIM et avec l'accord du président du MIM. Donc je n'ai trahi personne à ce niveau-là. C'est vrai qu'à partir du moment où j'ai été élu député, j'ai senti qu'il y avait une différence. Vous savez, c'est ce que vivent beaucoup d'hommes politiques ou de femmes politiques, c'est-à-dire à partir du moment où, par exemple, à l'applaudimètre, on arrive à dépasser le chef, le leader, les difficultés commencent. Et peut-être que la sentence, la condamnation à mort est prononcée. Vous ne le savez pas. Mais il ne faut pas, à un certain moment, être plus populaire ou au moins aussi populaire que le chef. Il faut toujours rester en dessous. Mais je ne considère pas que c'est comme ça qu'un pays avance. Et ce que je dis là, par rapport aux générations qui sont avant, je le dirai aussi par rapport aux générations qui sont après. C'est-à-dire que si ceux avec qui je travaille aujourd'hui, qui sont plus jeunes, qui sont brillants, qui sont pleins de talent, pleins de dynamisme, pleins de volonté, me démontrent qu'ils sont capables de porter le flambeau, mener le combat avec plus d'énergie, plus d'efficacité que moi, mais je serai le premier à m'en réjouir. Et aujourd'hui, au stade où j'en suis, je prépare déjà la relève. Parce que je sais que le combat ne doit pas s'arrêter à la durée de vie d'un homme, d'une personne. Et si on veut véritablement s'inscrire dans le temps, inscrire un mouvement de libération, d'émancipation, de responsabilisation d'un peuple, de respect d'un peuple dans le temps, ça ne peut pas s'arrêter à une génération. Le combat ne peut pas s'arrêter à une génération et une génération n'a pas le droit d'écraser toutes les autres. Et c'est ce qu'on est en train de constater. Donc effectivement, il faut que chaque génération prenne sa part. Et on ne peut pas nous dire aujourd'hui, moi à 53 ans, que je suis trop jeune, trop pressé, alors que ces mêmes dirigeants-là vont voter pour un président de la République qui n'a pas 40 ans. Ça veut dire que nous, on est en retard de nos chromosomes par rapport aux élus français. Non, chez nous, on a toujours tendance à considérer que les jeunes sont trop pressés. On ne leur donne pas leur chance. Aussi bien au niveau professionnel, au niveau sportif, etc. Dans tous les domaines, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos enfants, nous payons des études pour eux. Ils réussissent brillamment dans des conditions peut-être encore plus difficiles que les jeunes français. Et les jeunes français, on leur fait confiance professionnellement, politiquement. Et les nôtres, on ne peut pas, on est incapable de faire confiance à nos propres enfants. Ils ne sont jamais assez mûrs, mais quand est-ce qu'ils seront mûrs si on ne leur permet pas de s'exprimer, d'exprimer leur intelligence, leur potentiel, leur talent, leurs compétences? Donc, pour moi, ce débat-là, c'est un débat d'éloge à la gérontocratie. Je ne suis pas pour la juvénilocratie, mais je ne suis pas non plus pour la gérontocratie. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut savoir préparer le passage de témoins. Je n'ai jamais exigé qu'on me remette quelques témoins que ce soit, mais ce que je sais, c'est qu'une personne ne peut pas durer toute sa vie dans la même fonction, au même niveau de responsabilité, et qu'à un moment on atteint le sommet, et à un moment on commence progressivement à décliner, et à ce moment-là, il vaut mieux se mettre dans une autre position, je ne dis pas prendre sa retraite, mais se mettre dans une autre position de conseiller, de guide, de vigile, pour pouvoir perpétuer le combat au-delà de sa personne. Et si on n'est pas capable de faire ça, c'est qu'on n'a pas été un bon professeur. Parce que le bon professeur, c'est celui qui, de sa vie durant, a le plaisir de constater que ses élèves l'ont dépassé. Et si on refuse cette idée-là, c'est qu'on n'a jamais été un bon prof. Et je rappelle que moi, j'ai toujours considéré Alfred Marie Jam comme mon professeur, pas comme mon père. Mon père, c'est mon père, il s'appelle M. Serge Nilor, c'est à lui que je veux ressembler, c'est lui qui m'a inculqué un certain nombre de valeurs. Donc, lorsqu'on me dit que j'ai voulu tuer le père, je n'ai pas voulu tuer le père. En tout cas, pas le père Marie-Jeanne, je n'ai jamais voulu le tuer. Et si j'avais voulu le tuer, j'aurais accédé aux demandes, notamment des maires dans le cadre du G20, je me serais présenté aux élections de la CTM, j'aurais peut-être perdu, mais lui aussi, il aurait perdu. Donc, je n'ai pas voulu tuer le père. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas voulu tuer le père que je vais lui permettre de tuer le fils, entre guillemets. Je ne vais pas tendre la joue chaque fois. Vous imaginez un enfant, un jeune, qui rentre chez lui et tous les soirs, il prend des coups. Tous les soirs, il reçoit des insultes, du mépris. À un moment, il va laisser la maison. C'est ce qui est en train de se faire là. Heureusement, moi, je le ressens comme une forme de soulagement. Je ne regarde plus derrière. Désormais, ce qui s'est passé m'a beaucoup formé, m'a beaucoup conforté, m'a beaucoup renforcé dans ma détermination. En voulant m'abattre malhonnêtement, ils m'ont renforcé. Ils m'ont rendu peut-être plus fort qu'avant. Mais je suis désormais tourné vers la co-construction d'un nouveau mouvement qui doit porter quelque part un souffle nouveau sur la politique en Martinique. Et l'une dans l'ADN de ce mouvement-là, il faut bannir l'idée d'homme providentiel. Je ne veux pas que les gens soient fanatiques de moi. Je veux, à côté de moi, des gens qui m'aiment, qui m'apprécient. Et c'est justement parce qu'ils m'aiment, qu'ils m'apprécient, qu'ils doivent pouvoir me critiquer lorsque je dérive, lorsque je n'ai pas raison. Et c'est cette humilité-là qui va faire notre force demain. Je constate que la génération précédente, celle des Marie-Jeanne, etc., n'aura pas eu cette humilité d'accepter la critique, notamment venant des plus jeunes. Mais ils vont partir avec ça, quelque part, en héritage.
Très bien. Merci, Jean-Philippe Nilor.
Puis, je veux dire, pour que la population, le peuple martiniquais puisse bien comprendre, je ne crache pas dans la soupe. Je reconnais le travail incommensurable qui a été fait par le MIM dans des conditions difficiles et notamment par Alfred Marie-Jeanne. Oui, je reconnais, mais c'est un travail qui a été fait collectivement, mais avec un leader qui était à la hauteur et qui a fait des choses exceptionnelles en Martinique. Je ne remets pas ça en cause. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a fait du bien qu'il faut l'autoriser à faire du mal.